Bonjour à tous, nous avons le plaisir de partager avec vous ce nouveau format, un podcast. Gérard Araud, un ancien diplomate français, ancien ambassadeur de France aux États-Unis, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, ambassadeur de France en Israël, est un spécialiste reconnu de la politique internationale et il est récemment venu à Franklin, dans le cadre du CCF, et a accepté de répondre aux questions de 4 élèves de terminale. Après une écoute attentive, des réponses croisées, des analyses de fond, nous vous restituons aujourd'hui différents éléments. Ces propos dressent le constat d'une crise profonde de l'Occident face à un monde en pleine mutation, marqué notamment par l'ascension de Donald Trump et l'érosion des principes démocratiques. À la fin de son intervention, Gérard Araud souligne la fin de l'hégémonie occidentale et l'existence d'un ressentiment mondial croissant envers l'hypocrisie des anciennes puissances coloniales. L'Europe se trouve aujourd'hui fragilisée par ses divisions internes, par une dépendance sécuritaire incertaine et par l'absence d'un véritable leadership politique commun entre la France et l'Allemagne. Sa vision propose un réalisme diplomatique froid. Il reconnaît que les relations internationales reposent désormais davantage sur des rapports de force brutaux que sur la morale, longtemps présentée comme principe directeur d'un monde désormais révolu. Enfin, il suggère que l'avenir se jouera à travers de nouvelles alliances avec des puissances émergentes, loin de toute idée de supériorité héritée du passé. Cette introduction ouvre notre podcast qui sera suivi d'un échange de questions-réponses autour de ces enjeux majeurs. Comment Trump a-t-il transformé la diplomatie et les relations internationales ? Trump a transformé la diplomatie en remplaçant les alliances traditionnelles et le multilatéralisme par des rapports de force brutaux, du cynisme, une imprévisibilité totale. Gérard Araud, qui était en poste lors du premier mandat de Donald Trump, nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement d'un style personnel, mais de la représentation d'un courant profond de crise de la démocratie américaine et d'une volonté de « rentrer chez soi », entre guillemets, en délaissant le rôle de gendarme du monde. Les principaux piliers de cette transformation. Il y a tout d'abord l'imprévisibilité comme méthode. Trump prend ses décisions seul, en temps réel, ignorant souvent les rapports de son administration ou les notes d'entretien. Cela place les diplomates et les gouvernements étrangers dans une incertitude permanente, car l'administration américaine elle-même ne sait pas ce qu'il va dire d'un jour à l'autre. Et Gérard Araud en a fait l'expérience lors du premier mandat. Il y a la fin de la protection bienveillante. En effet, pour Trump, les alliances ne comptent pas vraiment face aux intérêts nationaux immédiats. La relation avec les alliés européens est devenue brutale et maladroite, marquant la fin du paradis que représentait la protection américaine. Il y a également un pivot vers l'Indo-Pacifique. Sous son influence, le centre de gravité du monde s'est déplacé. L'avenir ne joue plus sur l'axe atlantique, mais entre New Delhi et Los Angeles, la Chine étant perçue comme un danger principal. Se joue maintenant une diplomatie de l'ego et du compliment. Le rôle du diplomate a changé. Il s'agit désormais d'essayer de connaître son mode d'emploi et de l'amadouer par des compliments, plutôt que par des négociations classiques basées sur le compromis et l'ombre, pourtant nécessaires à la paix. Le retour du protectionnisme. Le mandat de Donald Trump a marqué le retour des droits de douane et d'une politique industrielle nationale forte, une tendance d'ailleurs poursuivie par son successeur Joe Biden. Cette approche a forcé l'Europe à constater la fin de la domination occidentale et à réaliser que le modèle ancien, basé sur l'OTAN et la sécurité garantie par les États-Unis, est désormais en sursis. Quels sont les enjeux de la fin de la domination occidentale ? La fin de la domination occidentale marque le passage d'un monde régi par les normes et institutions de l'Ouest vers un équilibre multipolaire instable, souvent décrit comme une jungle, où la force prime sur le droit. L'enjeu majeur est la perte de l'hégémonie culturelle, institutionnelle, sécuritaire de l'Europe et des États-Unis au profit de nouvelles puissances. Nous avons identifié différents enjeux. Le premier d'entre eux, le déplacement du centre de gravité mondiale. En effet, l'avenir ne se joue plus sur l'axe atlantique, hein, il s'agit d'envisager, finalement, à l'instar du slogan « American first » ou de cette idée que les Américains doivent rentrer chez eux, il y a une priorisation de l'économie et des emplois aux Américains qui se concentre sur la sécurité du pays et qui est prudent avec les alliances et l'aide internationale. Ce slogan, American First, a beaucoup été utilisé par Donald Trump, bien que l'expression existe depuis plus longtemps dans l'histoire des États-Unis. Il y a une contestation manifeste de l'autorité morale. L'Occident fait face à un ressentiment silencieux lié à son passé colonial et à ce qui est perçu comme une hypocrisie moralisatrice. Le deux poids, deux mesures. Les pays émergents, Inde, Indonésie, Mexique, Nigeria, cité par Gérard Araud, s'attache au droit international par intérêt, et non plus par vertu, ou soumis aux leçons de morale occidentales. C'est bien la fin du contrôle des institutions internationales. Des organismes comme le FMI, la Banque mondiale de l'ONU, longtemps dominés par les Européens ou les Américains, voient leur légitimité et leur contrôle contestés dans un monde qui se veut plus égalitaire. Il y a bien un retour de la réelle politique brutale. En effet, dans ce nouvel ordre, les valeurs et les convictions sont difficiles à maintenir. Les relations internationales deviennent le reflet de rapports de force cyniques, comme dans le cas de l'Ukraine. La justice peut être sacrifiée à la réalité du terrain et de l'agression. Un grand risque d'instabilité globale, bien sûr, que nous vivons déjà. Sans la domination occidentale pour imposer un minimum de règles, eh bien, il est évident que le monde risque de devenir une jungle de prédation, de conflits frontaliers, comme nous le voyons assez proche de nous, entre l'Algérie et le Maroc, par exemple. En résumé, on doit apprendre à parler d'égal à égal avec le reste du monde, sans sentiment de supériorité pour construire un nouvel équilibre. Comment l'Europe peut-elle parler d'égal à égal avec les puissances émergentes? Pour parler d'égal à égal, l'Europe doit opérer un changement de mentalité radical. Elle doit notamment abandonner sa posture de missionnaire moralisateur, chère au XVIIIe siècle, pour adopter une approche basée sur la réelle politique et les intérêts mutuels. Mettre fin à l'hypocrisie du deux poids, deux mesures, consiste bien à cesser de donner des leçons de morale tout en agissant selon ses propres intérêts. Et pour être crédible, l'Europe doit cesser d'être le missionnaire qui dispense des leçons et accepter que les puissances émergentes, telles que l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria ou le Mexique, s'attachent au droit international par intérêt et non pas par vertu. Reconnaître et traiter le ressentiment silencieux. En effet, les pays du Sud conservent un ressentiment profond lié au colonialisme et au néocolonialisme, et l'Europe ne peut plus se comporter en maître du monde. Elle doit bien sortir de son contexte ou de son complexe, peut-être même de supériorité, pour établir un sincère dialogue. Il faut privilégier les alliances stratégiques concrètes plutôt que de faire de grands discours. L'Europe bien doit reconquérir ses pays par des partenariats tangibles, à l'image de la relation développée entre la France et l'Inde, avec, par exemple, le contrat qui est en train de se signer avec des avions Rafale. Nous devons accepter la réalité donc de cette jungle mondiale, dans un monde où effectivement la prédation et les rapports de force dominent. Eh bien, l'Europe doit être capable de défendre ses intérêts avec réalisme. Cela passe par une augmentation des budgets de défense et une sortie de la naïveté diplomatique. Nous devons gagner en agilité décisionnelle. Il est vrai que le système de compromis à 27 est souvent jugé trop lent et trop tard, selon les termes de Gérard Araud, pour peser face aux géants. L'Europe doit et pourrait s'appuyer sur des coalitions de volontaires sur certains sujets, plutôt que d'attendre un consensus systématique, parfois impossible à atteindre, lorsqu'il s'agit évidemment d'un consensus à 27. En somme, l'Europe doit accepter que la domination occidentale est terminée et qu'elle est désormais, elle doit désormais négocier sa place dans un monde multipolaire instable. On comprend bien que l'opinion publique européenne soit prête à accepter ce virage vers une diplomatie plus brutale et moins axée sur des valeurs morales. Mais comment peut-elle, cette Europe, gérer ses divisions internes face à Trump? En effet, pour envisager de gérer ces divisions avec la menace d'un retour et l'influence de Donald Trump, l'Europe doit sortir du carcan de consensus à 27, comme on vient de le dire, et accepter de fonctionner par coalition de volontaires. Le modèle actuel de compromis est souvent trop peu, trop tard, donc, pour répondre à la brutalité des rapports et des forces mondiaux. Les pistes concrètes pour surmonter ces divisions, selon Gérard Haro, c'est de privilégier l'agilité sur l'unanimité, puisque la ratification de nouveaux traités est jugée impossible à cause de l'euroscepticisme ambiant. Alors l'Europe doit s'organiser autour de groupes de pays décidés à avancer sur des sujets spécifiques, par exemple la défense, l'industrie, sans attendre l'accord des 27. Il faut par ailleurs redéfinir le moteur franco-allemand. Le modèle économique de l'Allemagne est brisé. C'est la fin de l'énergie russe, bon marché, et l'accès facile au marché chinois. Et la France traverse une crise politique grave. La survie de l'Europe dépend de la capacité de ces deux pays à se redéfinir et à proposer une nouvelle direction. Il faut donc surmonter la crise de confiance envers le leadership européen. En effet, certains pays comme les Pays-Bas préfèrent encore le commandement américain au commandement français ou allemand. L'Europe doit donc prouver sa capacité de production et de protection pour rassurer ses membres qui craignent la fin de l'OTAN. Préparer les opinions publiques au sacrifice, c'est-à-dire que les gouvernements européens hésitent à augmenter les budgets de la défense, car les citoyens ne sont pas forcément prêts à consentir aux efforts nécessaires. Il y a une urgence à faire comprendre que la protection américaine n'est plus un paradis garanti. Nous devons donc recentrer l'action sur la réelle politique et face à l'imprévisibilité de Donald Trump, qui était expliqué plus haut, nous devons décider, seul et en temps réel, que l'Europe doit abandonner ses débats doctrinaux sur le fédéralisme pour se concentrer sur des actions concrètes et une puissance économique forte. En somme, l'Europe est en sursis et doit transformer sa faiblesse décisionnelle en une forme de réalisme stratégique pour ne pas sortir de l'histoire. Enfin, comment penser que l'idée de coalition de volontaires puisse réellement fonctionner sans créer une Europe à deux vitesses qui aggraverait les tensions entre l'Est et l'Ouest? Comment cette Europe peut-elle compenser la fin de sa protection américaine? Eh bien, elle doit évidemment opérer une transition brutale vers une autonomie stratégique en remplaçant sa posture de missionnaire par une réelle politique, comme nous l'avons vu, assumée, en réformant son modèle de décision interne. Elle doit passer du consensus à l'action par coalition. Elle doit investir massivement dans la défense. Elle doit également adopter une diplomatie d'intérêt avec le Sud global, cesser de s'allier par vertu, mais plutôt par intérêt, rebâtir une puissance industrielle et souveraine, bien sûr, et redéfinir le moteur franco-allemand. En résumé, l'Europe doit accepter que l'axe du monde qui a basculé de l'Indo-Pacifique vers l'Indo-Pacifique et qu'elle est désormais en sursis, elle doit apprendre à se défendre et à négocier seule dans une jungle internationale sans règles prédéfinies. Nous devons enfin regarder le monde tel qu'il est. C'est un monde prédateur où les valeurs sont difficiles à maintenir face à la réalité humaine. En effet, nous avons vu que l'Europe était en sursis et pour survivre, elle doit abandonner ses débats doctrinaux sur le fédéralisme et consentir aux efforts nécessaires, surtout en augmentant ses budgets de défense ou industriels. Il s'agit bien de passer d'une autonomie de l'ombre à du compromis, à une capacité d'action dans un monde qui est plus beau, mais profondément réaliste.